C'est Léon qui nous appelle du Var ce matin. Léon qui a une question à Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Bonjour Madame la ministre.
Bonjour.
Voilà, moi j'ai une question effectivement sur la Syrie, parce que j'ai eu le plaisir de visiter la Syrie un an avant l'attaque par la coalition de l'Irak. Donc j'ai vu un merveilleux pays. Et quand je vois aujourd'hui effectivement la situation de la population syrienne, ben je suis un peu effaré et désolé de voir un peu comment on peut déstabiliser un pays et l'amener pratiquement à une autodestruction. Alors moi ma question elle est relativement simple, Madame la Ministre. Ne pensez-vous pas que nous, Français et Européens en particulier, avons une grosse part de responsabilité dans la situation actuelle, parce que nous avons privilégié en fait le soutien de certaines factions sans les maîtriser, sans savoir de qui elles étaient et comment elles étaient constituées, en privilégiant une solution semi-militaire par la livraison d'armes, plutôt que de privilégier une diplomatie vraiment efficace. Et ceci n'indique-t-il pas que aujourd'hui en France, nous avons besoin de recréer une diplomatie forte et efficace, que le système militaire n'est pas forcément la solution.
Nathalie Loiseau vous répond.
Alors, là où je suis d'accord avec vous, c'est que il n'y a pas de solution militaire en Syrie, c'est une solution politique. Ensuite, où est la responsabilité? Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? En 2011, souvenons-nous, ce sont de très jeunes Syriens qui avaient écrit sur le mur de leur école « Mort au dictateur » et qui ont été torturés et assassinés dans des conditions effroyables. Une rébellion s'est levée. La faute que nous avons peut-être commise collectivement, je dirais, la communauté internationale, c'était de penser que se passerait en Syrie ce qui s'était passé en Tunisie, que les printemps arabes étaient une espèce de mouvement irrépressible et que très vite, il y aurait la chute d'un dictateur dans des conditions relativement pacifiques. Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le premier ennemi de la Syrie, c'est son régime. Bachar el-Assad est l'ennemi de son peuple. C'est lui qui martyrise sa population avec le soutien d'intervenants extérieurs. L'urgence, c'est que tout le monde se mette autour d'une table et que l'on se rende compte qu'il n'y a pas de victoire militaire possible. Ça fait 7 ans que la Syrie vit un martyr et il n'y a pas de vainqueur en Syrie. C'est cela qu'il faut faire. Et pour y parvenir, une diplomatie forte et engagée, vous avez raison, c'est ce que fait Emmanuel Macron. Nous avons la capacité de parler à tout le monde. Nous parlons à la Russie, nous parlons à l'Iran, nous parlons à l'Arabie Saoudite, à la Turquie.
Pour un résultat, pour l'instant, Nathalie Loiseau, qu'on ne voit pas parler à la Russie, même si elle a voté la résolution à l'ONU, ça n'a pas changé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la situation sur le terrain.
C'est la première fois que la Russie vote en faveur d'un cessez-le-feu et d'une trêve humanitaire en Syrie. Le vote s'est passé samedi. Demain, Jean-Yves Le Drian va à Moscou. Je peux vous assurer qu'on fait le maximum. On le fait, nous, Français, on le fait avec les autres Européens, en particulier avec l'Allemagne.
Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes en direct sur France Inter.
Oui, Madame la Ministre nous a rappelé ce matin que si la Pologne et la Hongrie devaient recommencer à ne pas respecter les règles européennes, si la Syrie devait recommencer à ne pas respecter les règles élémentaires des droits de l'homme, il serait temps alors pour les pays européens d'engager des discussions fermes. Mais n'est-il pas temps, Madame la Ministre, de ne plus repousser à demain ce qu'il est urgent de faire aujourd'hui? Donc je vous repose la question aujourd'hui, que font les pays européens ?
Vis-à-vis de la Pologne et de la Hongrie, je vous rappelle qu'ils sont membres de l'Union européenne, il faut donc que l'Europe se mette d'accord sur ce que nous demandons et comment nous le demandons. En particulier sur l'usage de fonds européens vis-à-vis de ces pays, il doit être assorti de conditions sur le respect des droits de l'homme, sur le respect aussi de la solidarité s'agissant des migrants. Sur la question syrienne, j'ai répondu au précédent auditeur, nous faisons le maximum pour qu'une trêve puisse entrer en vigueur et pour que des négociations politiques auxquelles se rendent tous les protagonistes, à l'exception des groupes terroristes, puissent avoir lieu. Trop longtemps, certaines puissances régionales, internationales, ont cru pouvoir faire leur paix à leur guise, dans leur coin. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, démonstration est faite. Il faut que l'ensemble de la communauté internationale se rassemble pour une paix en Syrie.
Hélène Philly.
Nathalie Loiseau, on l'a vu encore ce week-end, les agriculteurs français sont très inquiets par le Mercosur, ce traité de libre-échange qui est négocié avec les pays d'Amérique latine. Le ministre Nicolas Hulot disait hier dans le journal du dimanche que ce traité en l'état n'était pas acceptable. Quelle est votre position? Faut-il y renoncer ou pas?
Alors, à ce stade, rien n'est agréé entre le Mercosur et l'Union européenne et nous défendons très fermement les intérêts de nos agricultures, de nos agriculteurs. Le compte n'y est pas. Nous attendons une nouvelle proposition des pays du Mercosur. Alors, sur ces accords de libre-échange, je voudrais donner deux éléments. Le premier, c'est que, dans l'ensemble, nous y sommes favorables lorsque nos intérêts commerciaux sont bien défendus. Nous avons à exporter vers le Mercosur des automobiles, des produits agricoles. Certains auraient davantage de débouchés dans un accord commercial. Je pense aux produits laitiers, je pense aux appellations d'origine contrôlée, je pense aux vins, aux spiritueux. Tout cela attend un accord, mais il n'est pas question de signer un accord si on fragilise une filière, en particulier la filière bovine. C'est celle-là qui s'inquiète et nous avons très clairement dit à la Commission européenne que nous ne monterions pas dans les quotas d'importation de viande sud-américaine que nous accepterions sur le sol européen. C'est là où nous en sommes. Pour le moment, il n'y a pas d'accord.
Quelles sont vos lignes rouges? Il y a 70% déjà de viande qui sont importées en France. Il y en a peut-être suffisamment?
Alors, la question, c'est d'abord une question sanitaire. Nous ne voulons rien importer en France qui ne respecte pas les conditions sanitaires environnementales qui sont en vigueur dans l'Union européenne. Donc, ceux qui s'inquiètent sur l'arrivée dans nos assiettes de bœuf aux hormones n'ont pas à s'inquiéter.
Toute la viande qui arrivera en France, si accord il y a sur le Mercosur, devra être soumise au même régime sanitaire environnemental.
Absolument.
Qu'en Europe.
Absolument, sinon elle n'entre
pas.
Donc,
il n'y aura pas d'accord.
Parce que
aujourd'hui, les règles ne sont pas les mêmes de l'autre côté de l'Atlantique.
Ça dépend complètement de ce que souhaitent les pays d'Amérique du Sud. S'ils veulent pénétrer nos marchés, ils doivent se conformer à nos règles.
A-t-on les moyens de contrôler toute la viande qui arrive en France?
Ah ben c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous faisons déjà depuis un certain nombre d'années. Il y a déjà de la viande sud-américaine qui arrive en Europe. La différence, c'est qu'aujourd'hui, elle arrive avec des droits de douane. Et que ce qui est demandé dans l'accord, c'est la suppression de ces droits de douane.
Est-ce que vous comprenez la colère ou l'incompréhension, notamment des éleveurs de bœuf français, qui disent on nous met des règles dans les pattes à longueur d'année et, dans le même temps, l'Europe signe des accords qui les contournent, ces mêmes règles, pour importer de la viande venue d'autres pays, d'autres régions, d'autres continents?
Ben justement, non. L'Europe ne laisse pas contourner ces règles. Je comprends l'inquiétude, mais je veux y répondre. C'est ce que le président de la République a fait en allant samedi au Salon de l'Agriculture. Il a parlé longuement de ces sujets. Il a parlé avec les jeunes agriculteurs la veille aussi. Nous ne laisserons contourner aucune règle sanitaire, environnementale, pour la qualité des produits alimentaires qui seront sur nos tables demain.
Un mot sur votre collègue du gouvernement, Nicolas Hulot, qui annonce qu'il n'ira pas au Salon de l'Agriculture. Il a raison d'éviter les sifflets?
Je ne sais pas si c'est pour éviter les sifflets. Il rencontre les responsables du monde agricole régulièrement. C'est ce qu'il a expliqué. Le président de la République a passé plus de 12 heures au Salon de l'Agriculture. Stéphane Travert y était samedi et dimanche. Je pense qu'il y sera encore cette semaine. Plusieurs commissaires européens y étaient aussi hier. Il y aura d'autres membres du gouvernement. Aller au Salon de l'Agriculture, c'est une chose. Être en dialogue avec les représentants des agriculteurs, c'est ce que fait Nicolas Hulot, c'est ce que fait Travers, c'est ce que je fais moi-même, et c'est notre travail normal.
Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, est avec nous jusqu'à 9h. C'est Paul qui nous appelle au standard de France Inter 01 45 24 7000. Bonjour Paul.
Oui, bonjour. Bonjour Madame la ministre. J'ai une question toute simple. Est-ce qu'on n'est pas là finalement face aux limites de la politique de Monsieur Macron, qui est toujours dans le deux poids, deux mesures? Enfin, finalement, la faiblesse des institutions européennes, on le voit bien, sont responsables, est responsable finalement de tous les maux dont vous venez de parler, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'impuissance sur la Syrie. Et au final, on comprend pas bien on comprend pas du tout le programme de M. Macron, qui dit oui d'un côté, non de l'autre. Qu'en est-il de l'accord honteux signé avec la Turquie? Dont on sait, voilà, on sait très bien que tout
ça... Pour les migrants, hein.
Oui, pour les migrants. Qu'en est-il, effectivement, vous venez d'en parler de ces accords sur l'agriculture, où là, on va donner à Paul pour reprendre à Jacques. Enfin, où va l'Europe avec Monsieur Macron, Madame la Ministre?
Alors, on va essayer de trier un petit peu dans tout ce que vous dites, monsieur. Sur l'agriculture, je vous rappelle que la France est un des premiers bénéficiaires de la politique agricole commune qui vient au soutien des revenus de nos agriculteurs, mais aussi de la transformation de l'agriculture pour qu'elle soit respectueuse de l'environnement, qu'elle aide notre pays à faire sa transition écologique. Dans les accords de libre-échange que nous signons ou que nous négocions à travers le monde, nos agriculteurs sont aussi gagnants. Nous savons conclu un accord avec le Japon qui va permettre des débouchés très intéressants pour nos agriculteurs. Et c'est le cas dans les accords de libre-échange que nous acceptons d'agréer. Sur le Mercosur, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'accord aujourd'hui et nous avons clairement indiqué où étaient nos lignes rouges. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'impuissance de l'Europe. L'Europe ne va pas toujours assez vite, mais l'Europe aujourd'hui intervient en soutien de nos secteurs économiques. Elle intervient pas assez encore, mais aussi en soutien de nos salariés en matière sociale. On a obtenu un accord sur le travail détaché qui fait qu'aujourd'hui, nos travailleurs, mais aussi les travailleurs des pays de l'Est, sont mieux protégés. L'Europe, c'est ce que nous en faisons. C'est pas Bruxelles, eux et nous. C'est ce sur quoi nous arrivons à nous mettre d'accord, à 28 aujourd'hui, à 27 demain, pour répondre aux attentes des citoyens. Mais moi, ce que j'attends aussi, c'est d'avoir des propositions. Vous êtes critique, je l'entends. Ce que j'attends, c'est des propositions. Nous allons organiser des consultations à travers la France, entre avril et fin octobre, partout à travers les territoires, pour savoir ce que les Français pensent de l'Europe, ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas, et ce qu'ils proposent pour qu'on dessine mieux l'Europe de demain. Je vous engage à y participer. Ces consultations, on les organise en France et dans 25 autres pays de l'Union européenne.
Oui, ça, ce sont les fameuses concertations citoyennes.
Consultations citoyennes
lancées par Emmanuel Macron. Tous les pays en Europe vont les faire, sauf un, lequel?
La Hongrie.
Toujours le même.
Écoutez, ils ne l'ont pas souhaité, nous ne voulions que des États volontaires. Nous sommes extrêmement heureux de voir que ça n'est plus une idée française, c'est l'idée de 26 pays de l'Union européenne.
Hélène Filly.
Mediapart révèle ce matin le témoignage de la seconde plaignante qui accuse Gérald Darmanin, le ministre. Elle raconte qu'elle s'est sentie obligée d'avoir un rapport sexuel avec le ministre. Sa position aujourd'hui, selon vous, au sein du gouvernement, est-elle tenable ?
Je vous dis, pour moi, cette affaire, elle a trois dimensions. D'abord, une dimension judiciaire. Il faut laisser la justice travailler sereinement. Je relève que dans une autre plainte qui avait été introduite contre Gérald Darmanin, elle a été deux fois de suite classée sans suite au niveau de l'enquête préliminaire. Ensuite, il y a une dimension médiatique. Mediapart choisit de donner la parole à une plaignante vis-à-vis de Gérald Darmanin et en même temps, Mediapart soutient la libération de Tariq Ramadan qui est mis en examen et incarcéré à la suite de plaintes pour viol.
Vous faites le lien entre les deux affaires?
Ouais. Non, c'est un choix. Je remarque que Mediapart a des indignations différentes selon les cas. Je remarque aussi le goût du détail, parfois très intime, qui pour moi relève d'un voyeurisme mercantile d'une partie des médias. Et franchement, je le déplore. Je ne suis pas sûre que ça rende service à quiconque. Je suis extraordinairement favorable à ce qu'on libère la parole des femmes, pas à ce qu'on l'exploite. Et puis j'y vois aussi une troisième dimension. Je me souviens de ce que Laurent Wauquiez a dit s'agissant de Gérald Darmanin dans des propos qui ont été rendus publics la semaine dernière, en ignorant la présomption d'innocence et en cognant sur un ancien membre de son parti. Je trouve qu'on perd le Nord, on perd la raison. Laissons la justice travailler sereinement. Pas de tribunal médiatique, pas de tribunal politique.
Mais aucun lien entre l'affaire Tariq Ramadan et Gérald Darmanin.
Je relève simplement les choix éditoriaux de Mediapart.
Un mot, Nathalie Loiseau, si vous voulez bien, de l'Espagne. C'est une question qui nous est posée sur l'application France Inter. L'Espagne, nous dit cet auditeur, poursuit une personne élue démocratiquement. L'Espagne emprisonne des députés pour ce qu'ils pensent. N'est-ce pas le retour d'une dictature qui se cache derrière les magistrats espagnols aux ordres de Rajoy? Je cite toujours cet auditeur. Est-ce normal au sein de l'Europe?
Alors, c'est le contraire qui serait anormal. Ce qui s'est passé en Catalogne, puisque l'auditeur ne le dit pas, mais il s'agit des dirigeants catalans qui ont organisé une consultation qui était contraire à la Constitution, qui n'ont pas respecté un certain nombre de décisions de justice.
Ça mérite la prison.
Ils sont poursuivis. La justice. On parle de l'Espagne, on parle d'une démocratie, on parle d'un pays où la justice est indépendante. Ça n'est pas à moi de décider ce qui mérite ou pas la prison. Mais j'ai pleine confiance dans les institutions espagnoles. L'Espagne est une grande démocratie. Elle est à l'encontre de la Constitution et à l'encontre du droit espagnol. C'est s'exposer à des poursuites, en tout cas. Ça me paraît normal.
Merci Nathalie Loiseau.